Bienvenue à l'inauguration de l'avant-première édition du Festival de Démons de l'Imaginaire à Montrouge. Vous assistez à une grande première. Merci. Ce qui, à mon avis, est un record en un festival. Trois mois au jour près. Bref, ce festival cette année est consacré à la thématique de la littérature et des jeux. Littérature et jeux, ce sont deux thèmes qui sont, je dirais, indissociablement liés. Tout simplement parce que la littérature a un côté ludique, notamment quand on est enfant. C'est vraiment une dimension sur laquelle je pense qu'il faut insister. Quand on est enfant, on lit pour s'évader, on joue pour s'évader, et on adore jouer à des univers qui sont ceux des livres qu'on peut avoir passés, autour desquels on a pu rêver quand on était un enfant. Salut Léo.
Ça va?
Et toi?
Hey Jimmy!
Merci d'être aussi nombreux, si nombreuses et aussi belles.
Ça va? Tu vas bien?
Oui,
très bien.
Donc, pour inaugurer ce festival, j'ai demandé à quelques camarades de venir. Vous connaissez déjà très certainement l'une des stars du week-end, Patrice Cullet. Voilà, spécialiste mondial, et c'est vrai, de Robert Ward. Et quand je dis mondial, c'est probablement même plus que ça. Je veux dire.
Galactique.
Leonidas Asperini. Autre spécialiste des jeux sous toutes ses formes, et à qui l'on doit une des plus brillantes réussites françaises, internationales, mondiales de ces dernières semaines, ces derniers mois, qui est un succès absolument stupéfiant. 3 400 000 $, c'est ça, récolté sur Kickstarter pour faire un jeu Conan.
Voilà.
C'est juste un exploit stupéfiant, un record. Je crois que vous avez fait la une de plusieurs journaux télévisés.
On a fait. BFM, on a fait un peu France 2 aussi.
Tu parles en micro, il y a trop de monde.
Ah oui. Oui, on a fait BFM TV et puis France 2. Et c'est vrai qu'on a attiré un peu l'attention.
J'ai remarqué que BFM, vous l'adorez.
Ah oui, bah oui,
dès qu'il y a des sous. Le meilleur jeu entrepreneur français, etc. Oui, oui. Les questions de ta candidature au modem.
Bees for Business.
Et Franck, autre spécialiste de là.
Alors moi, je vais me présenter vite fait parce que je ne suis pas un professionnel. Mais je suis un peu à la croisée des deux mondes, c'est-à-dire que je suis un amateur de Ward et je suis un joueur invétéré, donc je me retrouve un peu ici parce que sur le forum, le site français Robert Ward, j'ai une petite activité qui couvre un peu le côté ludique des choses, donc vous pouvez peut-être me reconnaître sous le pseudonyme de Palantides si vous fréquentez le site Robert Ward.
Alors, qui ici fréquente le site Robert Ward? Ah, quand même! D'accord.
Mais depuis tous ceux qui sont ici ont réussi un jeu de trouver passage
secret.
C'est vrai que
c'est pas
bravo.
Trouver, hein. On est un peu comme Lovecraft, on n'a pas envie de trouver. Alors, pourquoi Robert Ward est-il aussi populaire parmi les amateurs de jeux? Pourquoi est-ce qu'on a eu comme ça une vague de jeux de plateau, de jeux de rôle autour du thème de Conan? Il n'y a pas d'autres personnages vraiment qui ont été exploités jusqu'à présent?
Pour l'instant non, mais de toute façon c'est Conan, c'est le personnage le plus connu de Ward, de très très loin. Je pense qu'il y a deux choses qui expliquent ça, qui expliquent la convergence en ce moment depuis quelques années. La première, c'est la réédition en France, en Europe, dans le monde, des nouvelles de Ward telles que Ward les avait écrites. Ça, pour la première fois, on dispose dans tous les pays d'une œuvre intégrale, débarrassée de tout ce qui était censure, ajout, réécriture, etc. Et qui fait que beaucoup de gens ont redécouvert Ward, ou l'ont découvert, et l'ont énormément apprécié. Et d'un point de vue plus ancien encore, c'est une remarque que je me suis fait il y a quelques mois, c'est lorsqu'on regarde des photos qui ont survécu de Ward, on en a une ou deux où il est en individu normal, une avec un chapeau, la plus connue, où il a une sorte de chapeau, la Al Capone. Toutes les autres, il est en train de faire le couillon avec ses amis de Cross Plains, déguisé en pirate, en homme préhistorique. Il s'amuse. C'est quelqu'un qui s'amusait déjà à se mettre en scène, qui écrivait pour se mettre en scène. Donc il y a une dimension ludique dans le personnage, dans ses écrits qu'on peut retrouver, et qui fait qu'il y a énormément d'amateurs de jeux de rôle, de jeux de plateau qui vont se retrouver là-dedans. Ça existait déjà pour Lovecraft, qui ont a priori plus ou moins la même origine, qui était d'ailleurs très correspondant. Et on découvre cette dimension-là chez Howard aujourd'hui de façon beaucoup plus naturelle, je dirais. Je vous laisse compléter sur aujourd'hui.
Excuse-moi, Léo. Peut-être juste une chose pour certaines personnes qui ne connaîtraient pas Robert Howard, à mon avis, dans la salle, il y en a sans doute.
Qui était-il ?
Alors, Howard est né en 1906 au Texas. Il est mort en 1936, toujours au Texas. Il a une carrière très courte et très intense. Il était auteur pour ce qu'on appelait les pulp magazines. Il a écrit environ 300 nouvelles. C'était une petite star dans son petit univers, on va dire. Il écrivait pour la revue Weird Tales. Il est connu pour ses... aujourd'hui, il est plus connu pour ses personnages que pour ses nouvelles, et en particulier par rapport à tout ce qui a pu être dérivé de ses œuvres. Donc le personnage de Conan le Cimérien, que le grand public connaît sous le nom de Conan le Barbare, une appellation que j'évite beaucoup et régulièrement. Solomon Kane, qui est sans doute son deuxième personnage le plus important. C'est quelqu'un qui a inventé la plupart des codes de la fantasy moderne. Aujourd'hui, George Martin le reconnaît lui-même, ou tout comme ça. C'est quelqu'un qui a mis en place tout ce que peut être aujourd'hui l'imaginaire d'aventure fantastique ou de roman historique à connotation fantastique. Quand on regarde Game of Thrones, c'est du roman historique. C'est quelque part entre les rois maudits et la guerre des roses, et auquel on rajoute des dragons et un peu de glace. Eh bien, ce courant-là, c'est Howard qui l'a cristallisé en 1930.
Alors, concernant Conan et son renouveau et l'intérêt qu'il suscite chez les amateurs un petit peu de jeux de toutes sortes, moi je dirais qu'en fait, il a déjà été présent parce qu'il a. C'est un personnage que beaucoup de. Une grande génération a connu dans les années 80-90 avec les comics, avec le film évidemment qui a été ce qu'il a fait connaître, on va dire, mondialement, pour beaucoup de gens en tout cas. Les comics ont marqué aussi parce qu'ils étaient très bons, et à cette époque c'était quelque chose d'un petit peu différent des super-héros. C'était un univers qui parlait à ceux qui appréciaient déjà les jeux de rôle à cette époque, et je dirais qu'en fait Conan a marqué beaucoup les rôlistes français, et c'est même, bon, il y a eu des jeux de rôle qui ont très très bien marché. Il y a eu GURPS Conan qui a marqué, même l'éditeur de Donjons et Dragons a sorti...
Des scénarios Conan, c'est vrai.
Ben oui, absolument.
Gygax était un énorme fan de Howard. Il l'a dit plusieurs reprises. Et donc l'influence de Howard sur Donjons et Dragons était déjà là.
Oui, Gygax est l'un des GOAT. Hein. C'est le co-créateur de Donjons et Dragons. Et c'est vrai que parmi les références citées par Gygax pour son jeu, il y a notamment Robert Howard, Conan, entre autres.
Oui, je voulais juste apporter une petite précision. Je ne sais pas si ce qu'en penseront les rôlistes. Moi, je pense qu'effectivement, le barbare, l'archétype du barbare tel qu'il existe aujourd'hui dans beaucoup de domaines, que ce soit la bande dessinée, le jeu de rôle et tout, vient en fait d'une interprétation, pour moi, de Conan. Alors, plus ou moins une bonne interprétation de Conan, mais je pense qu'effectivement, le barbare tel qu'il a été décrit dans Donjons et Dragons était une incarnation, une façon d'incarner en fait ce barbare, et que Gygax et Aronson ont forcément été fans d'Howard à un moment ou un autre, parce que, et on retrouve même un petit peu, je dirais, l'archétype qui peut déplaire souvent à Patrice parfois sur le barbare, le fameux barbare torse nu qui court dans la neige avec son slip en peau de bête, qui provient effectivement d'un certain nombre de choses qui ont été écrites après Robert Howard. Mais c'est pas, enfin moi j'ai pas écrit de thèse là-dessus, mais c'est un point de vue qu'il avait développé sur le forum pour essayer de faire réagir les joueurs, parce que je pense qu'effectivement le barbare tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'on le voit dans pas mal de bandes dessinées aussi, il provient de cette interprétation plus ou moins juste.
Oui, il a créé on s'est servi de la création de Howard pour créer une sorte d'archétype à la, comme James Bond, comme Dracula, comme Tarzan, dans lequel il y a assez peu de rapport en fait entre le personnage tel qu'on peut le voir ou le connaître par les films, les comics, pour connaître, il y a même eu les pizzas aux États-Unis, et ce qu'on peut lire dans les textes. Il y a toujours cette dimension de « Ah bon, c'est ça Conan ?» Parce que moi, je pensais à Arnold, je pensais à aux comics, etc. Et les gens ont toujours un vrai choc. Très souvent, il y a un vrai choc entre la perception qu'on se fait de Conan en tant qu'icône populaire et le personnage littéraire.
Mais est-ce que c'est quand même pas Howard qui a créé l'archétype du barbare ?
Le barbare, mais ce que les Anglais appellent le dark barbarian, qui serait très difficile à traduire en français, mais cette figure un peu sombre de personnage qu'on n'aime pas vraiment, pas un anti-héros, mais même si dans l'image on peut retrouver ce côté-là, un petit peu ce qui s'est passé pour Wolverine dans les comics américains. Et cette image-là, c'est un petit peu l'opposé négatif de Tarzan. Tarzan, c'est le bon sauvage, et Conan, ça va être ce héros barbare qui à la fois nous attire et nous fait peur.
Il remet un peu en question notre civilisation aussi.
Par définition. Oui. Donc,
Mais c'est, si, le l'archétype du barbare qu'on voit dans tout, même dans les MMO, dans tous les jeux, ça vient clairement de Ward, hein, c'est certain. Ça, bah, je veux dire, même Games Workshop, puisque cette vision-là, elle date aussi d'un jeu qui est sorti dans les années 90, je pense plutôt, c'était HeroQuest. Donc HeroQuest, on voit un barbare qui est Conan, revisité par l'imagerie populaire, mais c'est ça, quoi.
Est-ce qu'on peut parler de Conan un peu comme une sorte de premier super-héros ?
Non. Non.
C'est pas vraiment un, non, c'est pas un super-héros, c'est un héros, effectivement, d'Heroic Fantasy, dark, un peu sombre.
Mais c'est même pas un héros.
Enfin, en tout cas, il est perçu comme un...
Il est perçu comme un
personnage héroïque, malgré tout.
Et dans l'imagerie populaire, encore une fois, le personnage. Mais dans les nouvelles, c'est pas le cas. Lorsque vous lisez les nouvelles originales de Howard, il n'y en a aucune dans laquelle le mot Conan ou le nom Conan apparaît. C'est pas Conan le mercenaire, Conan le roi, donc, Conan le charcutier.
Tout, effectivement, il faut dire que tous les titres qu'on a pu connaître quand on était gamin, dans les collections, j'ai lu les Conan de Nick Carter, c'était Conan le bidule, Conan le flibustier, enfin tu...
Conan le charcutier, qui est bien aussi.
ce qu'on ne retrouve pas chez Howard.
Dans aucun texte de Howard, le personnage de Conan tel que vu par Howard, si vous voulez en avoir un équivalent filmique, moi je pense qu'il faut penser à vos Clint Eastwood de la trilogie Léon, où on a ce type, on ne sait pas qui il est, il arrive quelque part, les événements se déclenchent du fait de son arrivée, et une fois que la nouvelle est finie, enfin le film est fini, il s'en va, on ne sait pas où est-ce qu'il va. Point.
Alors comment expliquer la dérive, justement ?
L'argent. Sprague de Camp, qui est donc quelqu'un qui a, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui a vu l'opportunité commerciale. Tout ça, c'est, on a les documents hein, qui le prouvent. Il a vu tout l'intérêt qu'il y avait financier, l'intérêt financier qu'il y avait à récupérer l'œuvre de Howard, à en faire un produit de consommation courante. Il a mis 13 ans pour y arriver, et il y est arrivé en grande partie grâce à d'abord l'époque qu'il voulait, 65 aux États-Unis. On est 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'époque du baby boom, c'est l'époque de l'explosion de la culture de masse, la culture populaire, les comics, pensez à Marvel, pensez à tout ce que vous voulez, pensez à la musique rock. Et c'est dû aussi à Frazetta, évidemment. Et donc ce monsieur a fait de Conan un véhicule pour s'enrichir, très clairement. Donc c'est la récupération de quelque chose au profit d'une entreprise capitaliste.
Bon, et pour en revenir à littérature et jeux, donc apparemment, si on t'écoute, jusqu'au fameux Conan là, sur lequel vous avez travaillé, en gros...
Le principe, c'est ça, c'est que la volonté... En fait, Conan est toujours resté une licence nostalgique, enfin un personnage et un univers qui a marqué les joueurs, les rôlistes, comme je le disais, ou même les joueurs de jeux de plateau avec figurines, avec ce fameux HeroQuest. Mais il y avait une sorte de frustration. Tout le monde attendait qu'un bon jeu Conan sorte, et il n'y en avait pas. En fait, chaque fois que le Conan a été adapté, pendant très longtemps, ça a été des flops monumentaux. Quand ça a été la vraie licence, ça a été une catastrophe. Après GURPS, hein, GURPS Conan, il y a eu un jeu qui est sorti qui s'appelle Age of Conan, qui ne représente pas du tout Conan. C'est pas ce que les gens attendaient. Les gens avaient envie de pouvoir jouer Conan, de vivre ses aventures. Et là, c'était plus une sorte de jeu stratégie à la risque où Conan apparaît, mais on le joue pas. Enfin, c'était assez... Ça a complètement raté. Et donc, à tel point que tout le monde pensait même que... Le personnage, l'univers ne valait rien, en fait, il n'y avait aucun intérêt à le faire. Et c'est parti un petit peu de ce constat que finalement la licence et l'univers et ce qu'on se représentait étaient très forts, et que si on sortait quelque chose qui serait fidèle à ce qu'est vraiment Conan, ça devrait marcher. Et c'est parti de ce principe-là. Et c'est pour ça que ce jeu est sorti, vu qu'il a rencontré un succès, étant donné qu'il a rencontré un succès assez important, il va y en avoir d'autres certainement, et peut-être qu'on s'oriente vers quelque chose qui sera justement plus fidèle à Howard. Que ce qui était sorti jusqu'à présent.
Je vais juste compléter en ce que vient de dire Léo. Lorsque le Kickstarter sur le jeu de plateau Conan a été lancé, il y avait un jeu de rôle qui était déjà dans les tuyaux. depuis quelques mois. L'annonce n'était pas encore officielle, mais le projet était déjà lancé, la licence était déjà achetée. Et en cours de projet, très clairement au mois de janvier, lorsque le Kickstarter a explosé les prévisions en 5 minutes 38 secondes, brutalement le nom du jeu de rôle a changé et c'est devenu le Conan de Robert E. Howard. Donc le nom de l'auteur a été mentionné pour la première fois et du coup ils sont rentrés en contact avec moi pour justement que je tienne un rôle similaire à celui que j'ai tenu dans le jeu de plateau, à savoir voilà, on veut maintenant faire un truc fidèle à Howard. Et a priori, ils sont partis pour faire quelque chose de très sympa. Ils ont embauché pas mal de gens. Dans les auteurs, par exemple, il va y avoir Scott Odden. Scott Odden est un auteur américain de romans d'horreur fantasy. C'est un pur fan de Howard. Il y a Jeffrey Chanks, qui est aussi un spécialiste de Howard. Ils vont donc chercher des gens qui connaissent quelque chose à Robert Howard parce qu'ils ont compris, et là, c'est le jeu de plateau de chez Monolith qui a imprimé le mouvement, que c'est en étant fidèle, en respectant l'œuvre, en respectant les fans, qu'ils vont arriver à créer quelque chose qui va faire la différence et qui va pas ressembler aux choses qu'on a pu voir par le passé.
Alors, pourquoi ça s'applique dans les jeux et comme tu le disais, dans les livres, apparemment, le fait de ne pas être fidèle, ça a quand même permis le succès d'arriver, ou un certain succès d'arriver.
Alors, on ne va pas entendre, c'est une histoire assez complexe. Le succès des films, le succès des livres, pardon, date de 1966, et c'est très clairement les couvertures de Frank Frazetta qui ont fait la différence. On est arrivé à une conjonction qui était, je disais, donc 65-66. La fantasy aux États-Unis commence à exploser à partir de 62. Avec un monsieur très important qui s'appelle Donald Volheim, qui est assez peu connu en France, ou assez méconnu, dirais-je. Et Volheim est un type qui s'intéresse énormément à la fantasy. Il est actif depuis les années 30, donc depuis son adolescence. Il a écrit plein de fanzines, il connaissait Howard, puisqu'il a publié, c'est lui qui a publié le premier L'Agiborien, donc qui est l'article dans lequel Howard raconte la création de son univers fictionnel. Et ce monsieur, en 62, se dit, la fantasy, c'est ce qui va marcher, c'est le truc des années 60, parce que la science-fiction est alors, qui était en pleine ascension jusque-là, commence à connaître un déclin aux États-Unis, et un déclin qui a été entamé après Hiroshima, où Arthur C. Clarke a eu cette fameuse phrase, le futur n'est plus ce qu'il était.
Oui, mais c'est pas, enfin, tu as Hiroshima, tu as une chose qui est extrêmement importante en 57, qui sont les Spoutniks.
Et les Spoutniks. Oui. Et qui fait que la science-fiction devient, n'est plus un territoire de rêve, mais devient un territoire ou de peur, ou notre quotidien.
Mmh. Petite parenthèse, c'est intéressant parce qu'il s'est passé exactement la même chose avec l'an 2000, c'est-à-dire qu'on a fantasmé pendant des années sur l'an 2000, et puis l'an 2000 est arrivé, on s'est aperçu que ça ne correspondait pas à l'idée qu'on s'en faisait, ou à l'idée que, apparemment, peut-être la littérature de science-fiction, ou une certaine littérature de science-fiction nous vendait, et c'est vrai que les années post-2000 ont connu un déclin très très fort de la science-fiction, qui a été accompagné par une explosion des ventes de livres, de fantasy, notamment liés au succès du Seigneur des Anneaux. Hein. Années 60, pareil, il y a un livre aux États-Unis qui connaît un succès ahurissant, hallucinant, qui est un livre pirate. Une édition pirate de... Tu veux le dire ?
Enfin oui, d'abord deux minutes. 62, donc Monsieur Volheim décide, qu'on voit le vent tourner, et il décide de rééditer une œuvre qui était assez connue, mais qui n'était pas non plus phénoménale, c'est Tarzan. Il réédite tout Edgar Rice Burroughs dans sa collection. Chez Ace Books. 63, il commence à rééditer les œuvres des pulps. 64, il commence à arrêter du Howard. 64, le contrat pour les Conan est signé, donc en livre de poche. Et tout ça commence à très très bien marcher. En 65, toujours ce même monsieur, il croit découvrir une faille dans un contrat américain d'un jeune auteur qui s'appelle J.R.R. Tolkien. Peut-être que vous avez entendu parler.
Il est né en 92.
C'était un trait d'esprit. Donc ce monsieur Tolkien a connu un bon succès en Angleterre avec la trilogie, enfin ce qui est devenu une trilogie du Seigneur des Anneaux en édition cartonnée, mais se refusait à ce que le Seigneur des Anneaux soit publié en poche, parce que c'est quand même indigne de sa production en poche, c'est quand même très populaire, c'est pas bien. Et voilà, il pense avoir découvert une faille dans son contrat, et il publie une édition pirate chez S-Books, du Seigneur des Anneaux, sans autorisation de Tolkien, et cette édition a un succès monstrueux, et elle force Tolkien à reconsidérer sa position, et il va donc autoriser ensuite Ballantine à faire une édition autorisée du Seigneur des Anneaux, et c'est elle qui va déclencher le succès de l'œuvre de Tolkien. Mais ce n'est pas elle qui lance la fantasy en 65 ou en 66, comme le croient la plupart des gens. Le courant est déjà entamé depuis 62, 63, 64, avec des rééditions. Le contrat de Conan date avant Tolkien, Almeric, etc., était en 64. Tarzan a un succès incroyable. Les Tarzan étaient paraissaient chez Lancer, chez Ace Books, et Volheim avait embauché un jeune illustrateur de bande dessinée qui venait de passer 8 années à faire à être le nègre de Al Cap sur de comment s'appelle-t-il de son nom m'échappe, bref, sur la bande dessinée Little Abner, Al Cap. Et ce jeune dessinateur cherchait à revenir sur le devant de la scène, et il s'appelait Frazetta, et Volheim l'embauche, il lui dit, ben voilà, tu vas pouvoir me peindre des couvertures des romans de Burroughs, donc Tarzan, John Carter, etc. Et il le paye $200 la peinture, il garde les originaux. Frazetta a besoin d'argent à l'époque, il accepte, et il fait ça pendant 2 ans, 3 ans, jusqu'au jour où une firme concurrente, Lancer, donc qui est une firme de 18e catégorie aux États-Unis à l'époque, dont les activités principales servent avant tout à blanchir l'argent de la mafia, et Lancer Books dit, bah voilà, on va publier Conan, et donc est-ce que vous voulez bien venir, on a eu vos couvertures chez S-Books, ils sont vraiment très sympas, est-ce que vous voulez bien faire pareil chez nous, et donc on double le prix de Ace, donc on passe de 200 à $400 la peinture, et vous gardez vos originaux. Frazetta étant quelqu'un qui adorait conserver ses originaux, avoir le contrôle de son œuvre, il dit oui tout de suite. Et là, on se retrouve en 65. Et donc, Frazetta est au sommet de son art. Ça tombe pile au bon moment et il nous pond cette couverture d'une puissance phénoménale qui, à elle seule, ont renversé toute l'histoire de la fantasy, puisque pendant 20 ans, tout ce que Frazetta a pu faire, ou tous les clones de Frazetta, va donner le là de tout ce qui est couverture et illustration en fantasy. Il y a un avant et il y a un après Frazetta. Et le succès de Howard, j'aime beaucoup Robert Howard comme chacun sait, mais le succès de Howard en poche en 66, il est clair que les gens n'auraient pas acheté les nouvelles de Howard en telle quantité. On parle de plus +1 million d'exemplaires par volume. C'est quand même colossal comme chiffre. Et tous les gens, lorsqu'ils racontent leur première rencontre avec Howard dans ces années-là, à chaque fois, c'est la même chose. J'étais dans le magasin, dans la librairie, etc. Et là, j'ai vu cette couverture, et cette couverture, elle m'a littéralement sauté à la gueule. Et j'ai dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Il faut que je l'achète. Et c'est ça qui a fait le succès populaire de Howard. Le personnage était connu, il y avait un succès d'estime, il y a eu des éditions cartonnées qui s'étaient bien vendues dans les années 50, mais le personnage est devenu une icône populaire grâce à Frank Frazetta.
73, mort de Tolkien. 74, création de Donjons et Dragons. D'une certaine façon, même si Gygax a toujours défendu de s'être inspiré du Seigneur des Anneaux pour créer le jeu, même si dans les premières éditions, les Hobbits s'appellent effectivement des Hobbits. Non, mais tu as des questions de droit, c'est-à-dire qu'il y a des articles très marrants dans Dragon Magazine où Gary Gygax explique à longueur de pages que non, c'est pas le Seigneur des Anneaux, et il commence à expliquer toutes les différences qu'il y a. Et on a vraiment l'impression que c'est une sorte de plaidoyer, comme s'il craignait un procès pour expliquer que vraiment il n'y a aucun rapport, et que d'ailleurs, bientôt, les Hobbits s'appellent plus des hobbits, mais des petites gens, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un désir avec les jeux, que ce soit un jeu de plateau ou les jeux de plateau tels qu'on les pratique maintenant, et peut-être que tu pourras nous parler un peu des différences, de l'évolution des jeux de plateau et des jeux de rôle, de prolonger vraiment le livre dans la vie, de poursuivre mieux cette expérience?
C'est évident, enfin, que Donjons et Dragons c'est énormément inspiré de Tolkien, hein, ça c'est plus qu'évident. Et disons que quand on découvre un peu la fantasy et ce que ça procure comme sensation de lecture, c'est évident que des créatifs ont envie de retranscrire ça en jeu. Le Donjons et Dragons marque le départ d'une autre catégorie de jeux, puisqu'on introduit tous ces éléments de fantasy dans des jeux tactiques ou qui étaient plutôt de type wargame jusque-là et qui deviennent autre chose avec un aspect narratif fort. Et justement, c'est vrai que c'est le début d'une nouvelle ère du jeu, c'est sûr.
Ce qui est intéressant de préciser aussi, c'est que le jeu de rôle, et on le remarque bien, enfin, si on est amateur de jeu de rôle, il existe deux, on va dire, catégories. Le jeu de rôle avec son propre univers, créé pour l'occasion, et les jeux de rôle qui utilisent des mondes connus, qui sont effectivement ce que vous étiez en train de dire sur comment prolonger l'expérience d'une œuvre littéraire pour celui qui est amateur de cette œuvre littéraire.
Donc se projeter dans le monde de Conan, se projeter dans le monde de Tolkien ou d'autres univers a toujours été, je pense, véritablement intéressant pour le joueur, puisqu'il est dans un, encore une fois, un univers connu, dans quelque chose qu'il apprécie, dans lequel il se sent bien en tant que joueur. Et je pense que c'est toujours plus simple d'aborder un jeu par ce biais-là que plutôt un univers qu'on ne connaît pas forcément, qui n'est pas toujours évident à appréhender. Et donc, effectivement, celui qui a lu les bandes dessinées, parce que c'est très important aussi par rapport à ce qu'a dit Patrice tout à l'heure, il y a la sortie des livres dans les années 60, mais dans le prolongement, il y a quand même Marvel qui va donc lancer la bande dessinée, qui va être un pont populaire très très important avant l'arrivée même du jeu de rôle aussi.
Tout à fait.
Et qui va faire connaître aussi beaucoup Conan. Et donc,
voilà. Oui, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et la boucle, ce boucle se complète quelque part avec la réaction des gens qui ont acheté le jeu de plateau, qui ont fait le Kickstarter. Ce que je trouvais absolument incroyable, c'est que c'est des gens qui connaissaient le Conan le Conan des films, le Conan des bandes dessinées, mais qui n'avaient pas forcément lu les nouvelles. Et lorsqu'ils ont vu que le jeu était un jeu qui se voulait ultra fidèle, donc si Monolith m'a embauché, ils savaient qu'ils embauchaient le chieur autoproclamé, hein, je cite, qui est Patrice Louinet, c'était un compliment pour moi. Et donc, quand j'ai vraiment rempli mon rôle de chieur autoproclamé avec un plaisir non dissimulé, très clairement, et non, ça vous pouvez pas faire ça, non, ça vous pouvez pas faire ça, non, ça vous pouvez pas faire ça. Vraiment, j'ai passé des semaines à leur dire non, ça va pas, non, ça va pas, non, ça va pas. À la fin, ils voulaient me tuer. Et au niveau des gens qui ont découvert le personnage, ah bon, Conan, c'est pas ça, ah, c'est ça. Et on a eu exactement l'effet, alors, d'une façon, avec une ampleur assez incroyable, de gens qui sont, bon, à la base, des joueurs, qui ne connaissaient le personnage que par les incarnations comics ou déclinaisons films, et qui se sont mis à acheter, mais par quantité, les livres. Et quand je dis les livres, c'est quand, alors, j'ai demandé les chiffres, hein, très clairement à mon éditeur, Bragelonne, et sur la période, donc la période de Kickstarter en janvier, les ventes des awards chez Bragelonne, c'est plus de 232%, ce qui est juste
par rapport à la même période de l'année
dernière. Par rapport à la même période de l'an dernier, donc
en
232%, ce qui est juste, comment dirais-je, très significatif. Donc, c'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est une des raisons qui a fait que je m'étais intéressé au départ à ce jeu-là. C'était que j'estimais que il fallait que nous autres, entre guillemets, les spécialistes ou les puristes de Howard, qu'on ne reste pas dans notre petit univers littéraire, mais qu'on aille justement voir ou aller à la rencontre. Là, dans ce cas-là, c'est eux qui sont venus. Enfin, c'est Léo qui est venu à ma rencontre, dire voilà, on va faire un truc fidèle à Howard, et justement essayer de faire passer cette fidélité dans de la bande dessinée, dans du jeu de plateau, dans du jeu de rôle, pour arriver à quelque chose qui va être à la fois fidèle et répondre au désir. Moi, ce que j'ai découvert, c'est le désir. Moi, je suis pas du tout un joueur, hein, mais j'ai découvert le désir ou le besoin d'immersion de la plupart de ces gens-là. Et quand je dis immersion, ils ont vraiment besoin de s'imprégner d'un univers pour être capable de jouer dans les meilleures conditions, ce que tu disais il y a quelques minutes. Et moi, c'est quelque chose dont je n'avais absolument pas pris la mesure à l'époque, et qui s'est vraiment traduit par « Ah ok, donc mais si je veux bien jouer, il faut que je connaisse les textes originaux. » Et donc, en faisant un produit dérivé, on arrive à avoir toute une population qui va revenir vers ce qui a créé à la base le jeu, le phénomène. À savoir
revenir ou aller même, parce que apparemment
revenir et aller, pour beaucoup de gens, vers l'œuvre littéraire.
Il y avait une chose importante, on l'a abordé tout à l'heure, mais le Conan Howard n'avait jamais véritablement existé en jeu tel qu'il existe dans les livres. L'adaptation littérale, enfin, même s'il y a toujours un certain nombre de contraintes, hein, quand on passe sur un autre support, n'existait pas véritablement, même dans les jeux de rôle qui brassaient généralement assez large, hein, puisque pour essayer justement de compléter un peu l'univers, les éditeurs ont brassé large, ont récupéré, ils ont extrapolé largement, et puis ils ont récupéré large effectivement tout ce qui avait été produit après les écrits de Robert Howard, que ce soit Sprague de Caen ou d'autres, hein, ils ont brassé le plus large possible pour compléter l'univers. Mais Howard à la source n'avait jamais vraiment été adapté.
C'est ça. Et en voulant ratisser large, on perd tout ce qui fait la spécificité du personnage, parce qu'aucun imitateur, aucun pasticheur n'avait réussi à
faire ça. Je pense que le jeu là sur lequel nous avons travaillé est l'adaptation la plus fidèle d'Howard qui ait jamais été proposée jusqu'à présent, je pense.
J'aimerais bien savoir, Patrice, quand tu dis que tu les as empêchés de faire certains trucs, concrètement, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qu'ils voulaient faire
Alors, lorsque...
Red Sonja, par exemple.
Donc, Red Sonja, oui, il y a eu longue et houleuse discussion. Mais de toute façon, je savais que j'avais raison, puisque Red Sonja n'appartient pas à Paradox, donc il pouvait faire ce qu'il voulait, il pouvait chanter, danser, etc.
Il faut vous expliquer un peu.
Alors, le personnage de Red Sonja est une... donc, je vous laisse à décrire, parce que si moi je le fais, ça va être violent. Non, j'y vais. Ouais, allez, j'y vais.
Donc
Red Sonja est un personnage qui apparaît dans une nouvelle historique de Howard, qui s'appelle... L'ombre du vautour, qui raconte le siège de Vienne en 1529 par les troupes de Soliman le Magnifique. C'est une nouvelle historique absolument géniale. Cette nouvelle a été adaptée en 1973 par Roy Thomas et Barry Smith dans le comics Conan the Barbarian de chez Marvel. Et donc là, ils ont pris le héros de la nouvelle, qui s'appelle Gottfried von Kallenbach, qui est devenu Conan. Et là, c'était assez joie, puisque le personnage est un pochetron, une sorte de gros feignant assez qui fait beaucoup penser au Falstaff de Shakespeare. Et donc, la Sonja de la nouvelle est devenue Red Sonja, où le Y du personnage original, Sonja, est devenu un J, Sonja, pour faire plus iborien. Barry Smith, qui est un dessinateur que j'apprécie beaucoup, lui a fait une tenue tout à fait normale de femme guerrière, avec une sorte de côte de maille... Non, une tenue tout à fait normale. Et le personnage a apparemment plu au lecteur, donc le lectorat des Marvel Comics dans les années 70 est habituellement rentre dans l'adolescence et commence à avoir le visage couvert d'acné. Et il décide de lancer une adaptation en bande dessinée du personnage, version solo, dans laquelle il apparaît avec un bikini, à pas d'autre terme, en côte de maille. Ce qui, à mon avis, dans la vraie vie, doit être très difficile à porter. Il y a eu beaucoup de... Et donc, bref, ce personnage est devenu une sorte de je sais pas, d'ovni, de monstre, de fantasme. Il y a Wendy Pini, la créatrice d'ElfQuest, qui donc est une brousse... opulente, qui avait pour habitude de se promener dans toutes les conventions américaines des 70s, dévêtue en Red Sonja. Et du coup, ça crée un monstre et qui fait que beaucoup de gens avaient une sorte de souvenir Madeleine de Proustien de Red Sonja qui leur rappelle leur adolescence. Et autant je trouve que le côté kitschouille, parce que vraiment, c'est ça, du personnage est marrant d'un point de vue. C'est marrant. Mais en clair, ça décrédibilise aussi beaucoup Howard. Donc, il a quand même fallu pas mal que je me bataille pour expliquer tout ce qui était le Conan et Howard par extension sont vus comme est vu comme une œuvre machiste ou misogyne en tout cas. Et ça n'est toujours pas le cas, parce que Howard était plutôt féministe aussi, étonnant que ça puisse paraître. Et expliquer ça aux gens en leur montrant à côté l'histoire d'une héroïne. Alors voilà, c'est une héroïne guerrière en bikini d'acier, mais Howard est un personnage qui n'est pas misogyne, c'était juste impossible. Donc je me suis lancé dans une croisade qui était, dès qu'elle apparaît, je la flingue.
Le personnage est devenu très très populaire, et c'est là qu'on se rend compte de l'impact de la bande dessinée quand même.
Oui, tout à fait.
Parce qu'elle a eu sa propre déclinaison, ça existe toujours aujourd'hui, il existe encore un comics qui s'appelle Red Sonja.
Et totalement.
Il y avait même des scénarios de Donjon Dragon.
Alors oui, il y a eu un module édité par TSR qui concernait ce personnage-là. C'est pour dire à quel point elle a quand même impacté fortement l'univers, alors malgré elle, on va dire, de Howard. Et qu'elle est restée encore dans la mémoire des gens, parce qu'elle est revenue quand même de manière très très récurrente dans les discussions qu'il y a eu sur le forum de Drac sur le sujet qui était dédié au jeu Conan.
Oui, c'est impressionnant. Et Rodriguez a failli faire un film avec sur Red Sonja il y a 5-6 ans. Robert Rodriguez est un gros fan de Howard. Il a eu deux projets filmiques d'après Howard, inspirés de Howard. Il y en a un, c'est l'adaptation cinématographique de La Reine de la Côte Noire. Et le deuxième, c'était Red Sonja, dans lequel il voulait faire jouer sa compagne de l'époque, Rose McGowan. Ça ne s'est pas fait. Mais effectivement, comme tu dis, le personnage a eu un vrai impact.
C'est pas le film qui a marqué les gens. Ce qui a marqué, c'est vraiment les bandes dessinées, parce qu'à une époque, justement, c'était une héroïne forte, c'était une guerrière fière. Je sais pas de qui il s'est inspiré pour la faire, mais dans la bande dessinée, c'est le sort de fantasme qu'on ne peut jamais avoir, puisqu'elle dit dans la BD qu'elle ne s'offrira qu'à celui qui l'aura vaincue à l'épée, et personne ne peut la vaincre à l'épée. Enfin voilà, il y avait ces fantasmes-là qui étaient. C'était un personnage fort, et dans la BD, au départ, quand on imaginait, on se disait, ah bah oui, ce serait sympa d'avoir des petites figurines où tu vas avoir Conan, Red Sonia et Bélite, puisque Bélite aussi était, dans la BD, était un personnage fort et. Et donc à l'époque, moi je savais pas du tout que c'était. Je pensais vraiment que c'était un personnage d'Howard. Voilà, c'est vrai que c'était.
Première rencontre que j'ai eue avec Léo. Bon, on va faire un truc sur Conan et il va y avoir Red Sonia. Non. Non, mais il va y avoir. Non. Il n'y a pas eu.
Non, mais.
J'ai eu beaucoup de noms de la part de Patrice et Rose Tam.
Après, en s'intéressant au roman, aux nouvelles, en lisant les livres et en voyant. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses très intéressantes. Et finalement, revenir à la base est une bonne chose parce que moi, je pars du principe, c'est pas un hasard si certains univers ont marqué et sont passés à la postérité. C'est bien parce que l'auteur a mis quelque chose qui touche les gens. Et donc, en revenant vraiment à la base, déjà, on revient à ce qui a pu plaire à ce grand nombre. Et dans le cadre de Conan, je pense que c'est quelque chose qui a un petit peu intrigué les gens parce que le projet a plu aussi, pas uniquement parce que c'est Conan et Howard, il y a d'autres choses. Il y a le fait que ce soit un projet français, le fait qu'il y ait un système de jeu novateur, que ce soit extrêmement immersif, que ce soit quelque chose qui ait beaucoup d'aspects de jeu de rôle. Mais le fait qu'on dise, ben voilà, on revient aux sources de Howard et c'est le Conan que vous ne connaissez pas qui est le vrai Conan. Ça a généré un intérêt, ça a poussé plein de gens à lire ces romans et à découvrir autre chose. Quelque part, le fait de revenir à cette source, c'était une originalité.
J'ai envie de te dire, ce que Howard a subi, à mon avis, les autres, enfin Tolkien l'a subi aussi, de toute façon, Lovecraft également, parce que chez Lovecraft.
Je pense que Tolkien a été moins trahi que Howard.
Il y a quand même énormément de suppléments sur certains trucs qu'il a pas tout à fait. Mais là, je parle de.
Il a quand même eu un super film, il a eu une super trilogie.
Oui, mais je pensais au jeu.
Il n'y a jamais eu de soucis par rapport à l'œuvre de Tolkien. C'est vraiment la grosse différence.
Il n'y a pas eu. Non, mais si on prend Lovecraft, par exemple, le jeu de rôle, l'Appel d'Cthulhu, qui est très bon par ailleurs, met quand même en scène des oppositions de dieux, enfin des guerres de dieux, que tu n'as pas du tout dans les.
Non, bien sûr.
Oui, mais peu importe, ça reste un pastiche qui est clairement identifié comme pastiche parce que tout le monde, en cas de doute, pouvait se reporter vers l'œuvre originale.
Oui,
dans le cas de Howard, c'était pas le cas.
C'était pas présenté comme tel. Hein.
Je suis bien d'accord, mais il suffisait de relire les nouvelles pour savoir que c'était pas le cas. Dans le cas de Howard, il y avait un flou artistique entre ce qui était de Howard, pas de Howard, etc. C'est vraiment impossible avant l'an 2001 en Angleterre et 2007 en France.
Est-ce que les nouvelles de Lynn Carter, Sprague de Caen sont encore exploitées?
Non, elles ne sont plus exploitées depuis 2003 aux États-Unis.
Explique un peu l'histoire éditoriale de ces nouvelles, parce que je pense que tout le monde connaît. Pas.
Tout le monde a pris de quoi manger, un sandwich, de quoi dormir. Très rapidement, lorsque Howard meurt en 36, Conan s'arrête par définition, même si Howard avait arrêté d'écrire les nouvelles du personnage depuis quasiment un an, en juillet 35. L'œuvre va tomber peu à peu dans l'oubli, jusqu'en 46, où il y a un monsieur qui s'appelle August Derleth, qui est un bandit lui-même, qui a fondé Arkham House, donc la maison d'édition qui est connue pour avoir réédité Lovecraft.
En
39, pour la première fois, un recueil qui s'appelait The Outsiders and Others. Donc, il décide de rééditer Howard, mais il ne veut pas rééditer trop de Conan parce que c'est trop sanglant. Donc, il fait un volume qui se vend assez bien, mais qui a un tirage respectable. Je crois que c'est 3000 exemplaires. 50, il y a un accord qui est trouvé avec une jeune maison d'édition qui s'appelle la Gnome Press. La Gnome Press va publier 7 recueils de nouvelles de Conan de Howard. Les trois premiers se fondent après les textes de Weird Tales, et en 51, il y a un monsieur qui s'appelle Sprague de Caen qui se pointe dans les bureaux de l'ex-agent de Howard et qui dit « Ouais, ça a l'air sympa, ça. Ça m'intéresse. Je veux bien m'occuper des volumes et donc m'occuper de la réédition. » Et puis, il trouve des nouvelles de Howard, des nouvelles d'aventure, des nouvelles historiques. Et il se dit « Tiens, ça pourrait être sympa de les réécrire et de transformer le personnage en Conan et d'en faire de nouvelles fantastiques. » On lui autorise à en faire un volume, ce qui est fait, qui sort à part. Mais Sprague de Camp dit, ben voilà, si je veux maintenant écrire du Conan, ben personne ne peut m'en empêcher, parce que personne n'ira... l'auteur est mort et tout le monde s'en fout. Là, le patron de la Gnome Press lui dit, mais mon ami, si tu essayes ça, je te colle un procès aux fesses et tu finis en tôle. Donc du coup, Sprague de Camp ne fait rien. Et il attend. Il attend jusqu'en 62. 62, les agents, la firme qui a les droits de Ward plie boutique. Le type meurt. Plus personne ne s'intéresse véritablement à Ward. Et là, Sprague de Camp va au Congrès, aux États-Unis, bibliothèque du Congrès, il surveille les dates d'expiration des copyrights des nouvelles de Weird Tales. Il pense découvrir à tort que les nouvelles tombent dans le domaine public. Il teste ensuite le marché en faisant paraître une nouvelle dans une anthologie, une nouvelle de Conan dans une anthologie, pour voir s'il y a une réaction de potentiels héritiers. Il voit qu'il n'y a rien qui se passe. Et là, il décide de lancer la réédition et il se déclare co-auteur de la série et éditeur, donc au sens américain du terme, de la série, savoir celui qui est responsable de tout ça. Il explique que ce travail est nécessaire, puisque Howard n'a pas complété la saga, entre guillemets, de Conan, et que donc il avait besoin de quelqu'un pour le faire. Ce quelqu'un, c'était évidemment lui-même, puisque Howard était à moitié fou, dit-il. Donc il faut que quelqu'un réécrive les textes, les réarrange dans un ordre chronologique que Howard avait, selon lui, voulu, ce qui n'était pas le cas. Et en clair, bah, très clairement, il opère un hold-up sur l'œuvre. Hold-up qui fonctionne d'un point de vue légal. Ce hold-up-là est cimenté, je dirais, légalement au milieu des années 70, lorsque la Universal s'intéresse au projet Conan de façon très sérieuse pour en faire un film. Et donc là, lorsque les représentants de Universal arrivent et disent, voilà, on va faire un film Conan, ils ont en face d'eux trois ou quatre factions qui sont en guerre les unes contre les autres. Donc les héritiers de Ward, Lynn Carter, Sprague de Camp et un avocat. Les gars d'Universal, ils voient ça, ils disent « Désolé les gars, mais on peut pas causer avec quatre entités différentes. Tant que vous mettez à table, vous causez, et on repasse vous voir dans un mois, et là on va voir un interlocuteur. » Et c'est ainsi qu'est née la Conan Properties Incorporated, la CPI, qui est une société dont la fonction est de regrouper les différentes factions en guerre dans le monde de Conan, et chacun ayant récupéré un pourcentage sur toutes les ventes des nouvelles, des produits dérivés, etc. Et donc Sprague de Camp, qui n'a jamais rien fait, qui a juste complété, pillé, trafiqué, censuré les œuvres de Howard, se récupère avec un pourcentage assez important. Il laisse, je crois, 5% généreusement à Lynn Carter. Il est bon, quand même, cet homme. Et il obtient un contrôle total sur les nouvelles de Conan de Howard, pas sur le reste de l'œuvre, juste Conan. Le reste, il s'en fout un peu. Et il va exercer ce contrôle jusqu'en 2000. L'année où il meurt. Il interdit à quiconque de rééditer les nouvelles de Howard telles que Howard les a écrites. Il fallait impérativement passer par lui. Donc, 6 mois avant sa mort, une entreprise anglaise s'appelle Wandering Star a réussi à récupérer les droits. Finalement, Sprague de Camp était vieillissant, sa femme venait de mourir, il s'en foutait un peu, et donc on a pu lancer un projet. Alors, un projet qui était un projet de réédition intégrale nouvelle de Conan de Howard, mais telle qu'écrite par Howard, débarrassé de toutes les ingérences de Sprague de Camp. Donc, il avait ça. J'avais à l'époque la chance, entre guillemets, d'être sur la shitlist de Monsieur de Camp par rapport à ce que je pensais de son travail. Et il a fallu un petit peu contourner tout ça pour être capable de pouvoir enfin rééditer les nouvelles de Conan telles qu'écrites par Howard. Donc le personnage a été créé en 1932 et la première édition au monde des nouvelles de Conan telles qu'écrites par Howard, elle est anglaise, donc c'est Wandering Star, c'est 2001 ou 2002. Première réédition telle qu'écrite par Howard, c'est 2001.
Comment faire pour reprendre uniquement les textes de Howard?
À l'époque, je commençais déjà à travailler pas mal. J'étais à la pêche aux manuscrits depuis de nombreuses années. Donc,
par rapport à des manuscrits?
Oui, moi j'ai récupéré les tapuscrits. J'ai passé une bonne partie des années 90 et début 2000 à récupérer les tapuscrits originaux. Donc chez Glenn Nord aux États-Unis, au Texas, puis dans des collections privées. Enfin, j'ai un petit peu retracé tout ça et j'ai récupéré des 2500 et quelques pages.
Patrice,
oui.
Sans Sprague de Camp, est-ce que l'œuvre de Howard aurait survécu?
Non seulement elle aurait survécu, mais comment est-ce qu'elle aurait survécu? Donald Valheim était quelqu'un qui aurait automatiquement réédité Howard en 64 s'il avait pu le faire. Tout à l'heure, je parlais début des années 60, la fantasy a un énorme boom aux États-Unis et l'artisan principal de ça, c'est Valheim. Et Wolheim, c'est un pur fan de Howard. En 1930, il publie des fanzines, il publie La Giborien. C'est lui qui publie The Fantagraph, où il paraît pour la première fois des poèmes de Howard. Fin des années 30, il publie un autre fanzine, dont j'oublie le nom, avec du Howard. Années 40, il publie un truc qui s'appelle The New Hieroglyph, qui est un petit, tout petit fanzine qui contient juste trois poèmes de Howard, juste pour le plaisir. En 47, il lance une revue qui s'appelle The Avon Fantasy Reader, qui est oubliée aujourd'hui. C'est la première revue qui ne publie que des textes de fantasy des années 40, des années 30, édité de Weird Tales ou nouveau. Il y a à chaque fois, dans, je crois, il y a 8 numéros, il y a 18 numéros parus, il y en a 8 avec du Howard, 5 ou 6 fois en couverture. En 50, c'est lui qui publie la première édition de poche de Howard lorsqu'il réédite Conan the Conqueror. En 53, pardon. Donc c'est un bouquin en poche, c'est la première fois que Howard part en poche. En 57, il publie des bouquins, toujours ce même volume, il publie des bouquins dans lesquels à chaque fois il fait paraître une nouvelle de Howard au sommaire. En 64, c'est le premier à faire paraître Almuric, un roman d'Eric Fantasy de Howard, en poche. Ce type, pas intéressé par la réédition de Howard en 63-64, j'y crois absolument pas. Pourquoi est-ce que Wolheim n'a pas réédité Conan en 64? Parce que, comme l'explique Sprague de Camp lui-même, 18 boîtes de livres de poche aux États-Unis ont refusé Conan. La raison pour laquelle Conan arrive chez Lancer Books, donc une firme de 53e catégorie, c'est parce que ces gens-là ne veulent pas payer pour rééditer ce que tout le monde pense être dans le domaine public. Wolheim le premier. Wolheim était quelqu'un de très bien, mais c'est aussi un petit filou. Hein. S'il exploite Tolkien en livre de poche, c'est parce qu'il ne coûte pas un rond. Il pense que c'est dans le domaine public, à tort, mais il le pense. Et pour Conan, c'est la même chose. Ce que Wolheim a refusé, c'est pas Conan. C'est le Conan de Sprague de Camp. Ce qui est une grosse différence. Sprague de Camp, pour en terminer avec ce monsieur, trouvait que le Conan vu par Frazetta était horrible, qu'il avait les cheveux beaucoup trop longs. Sprague de Camp est quelqu'un qui a empêché, au contraire, le fait que Howard ait le succès qu'il est. Imaginez, lorsque le contrat pour Conan dans le livre de poche a été signé en 64. On est un an avant Le Seigneur des Anneaux. Imaginez que ça puisse se faire comme ça devait se faire au départ aux États-Unis. Imaginez que ça ait pu se faire comme ça devait se faire au départ. Ça veut dire qu'on aurait eu en 64, un an avant l'édition du Seigneur des Anneaux, une édition pure, intégrale, des nouvelles de Conan. En poche aux États-Unis avec le succès populaire qu'on imagine si on supposait que Frazetta fasse les couvertures. Je pense que aujourd'hui le paysage de la fantasy ne serait pas vraiment le même.
Heureusement tu es là. D'autres questions peut-être?
On m'entend peut-être?
Oui,
je pense qu'on vous entend.
C'est plus une remarque en fait, parce que moi j'ai été marqué par le Conan en fait. Chez Titre SF avec une couverture de
Nicolet,
oui. Des choses comme ça. Et en fait, moi, je suis. Et dans Lovecraft, j'ai lu les Humelets, les Derleth. Dans le troisième que je rajouterai, en plus de Tolkien, je rajouterai Moorcock avec Elric. Et en fait, je suis quand même très reconnaissant aux très mauvais auteurs qui ont à chaque fois augmenté et qui ont donné plus de misère et plus de continuité. Même mal écrit à des gens comme moi. Et par exemple, quand on lisait tous les titres SF, tous les copains avec qui on les lisait en intégralité, on disait « Ah, il y a les bons et il y a les mauvais ». On était capable de lire les bons et les mauvais. Sauf qu'on était quand même content d'avoir même des mauvais qui disaient « Ah, c'est bien de savoir qu'il va dans la côte noire ou qu'il va à tel endroit ». On imaginait le monde. On disait peut-être que c'est dommage qu'Howard les ait pas écrits, parce qu'ils auraient écrit mille fois mieux.
Il y a un côté, effectivement...
Mais on était quand même content. Parce que quand on est joueur ou qu'on a l'imaginaire, si on reste juste avec l'original, il a beau être mieux écrit, des trucs comme ça, je ne suis pas persuadé qu'il passe toujours. Moi, Conan, ça a été d'abord la BD, de très très loin devant, à cause du dessin, pas des histoires. Je suis fan absolu du premier film, pas parce que l'histoire elle est pourrie, mais parce que pour moi, Schwarzenegger, à ce moment-là, c'était l'image de Conan. Et donc, j'aime bien les puristes, mais en même temps, je mets un bémol sur le fait que c'est pas parce qu'on va refaire l'édition exactement telle qu'elle était à l'époque on va forcément avoir un succès. Parce que le succès, il est fait même avec les mauvais, en fait.
Et c'est pas seulement ça, c'est aussi que le Robert Howard mérite d'avoir une addition. Je pense que le fait d'avoir des œuvres dites participatives, elles le sont un peu par défaut avant même que la notion apparaisse. C'est-à-dire qu'on peut piocher là-dedans. Lovecraft, il invente des livres, des Necronomicon, des figures qui peuvent être récupérées par d'autres. Et je pense que cette notion de partage, que ce soit celui. Voilà, participe du succès de ces œuvres-là. On le trouve chez Lovecraft, on le trouve chez Howard, bon, probablement contre sa volonté, enfin, parce qu'il était mort, il ne pouvait pas dire grand-chose. Très certainement, mais ça n'empêche que quand même, Howard, on a les textes. Alors certes, on peut dire, oui, on a telle version, ça a été revu encore longtemps. Howard, visiblement, n'avait pas. C'est vrai qu'il y avait un véritable malentendu. Moi, j'ai grandi aussi avec les Howard qu'on trouve autrefois chez GU. Je dirais que le travail de Patrice m'a permis vraiment de, enfin, j'allais même pas dire redécouvrir l'auteur, mais de le découvrir.
Oui, tout simplement, c'est pas, je ne m'oppose pas par principe au pastiche. J'ai commencé avec les bandes dessinées aussi. J'ai aucun problème avec un pastiche en soi. Ça m'arrive de lire un pastiche de Sherlock Holmes, je trouve ça très marrant. Je sais que c'est un pastiche, ça ne me pose aucun souci. La différence et le problème que nous, on avait avec Howard, c'était qu'il était impossible pour un lecteur lambda de lire les nouvelles de Howard telles que Howard les avait écrites. Donc moi, ce que je voulais, c'est avoir voilà, mes trois bouquins avec Howard, et rien que Howard. Et si après, quelqu'un veut écrire du Conan, personnellement, ça ne me pose aucun souci. S'il veut faire un Conan noir, un Conan homosexuel, un Conan ce qu'il veut, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste que je veux que le lecteur qui a envie de lire ce qu'a écrit Howard, voilà, il puisse le faire facilement, très simplement, sans qu'on cherche à lui faire prendre des vessies pour des lanternes. Et c'est ce qui s'est passé pendant 50 ans avec Howard.
J'ai aussi une question. Sur le succès du jeu, il est phénoménal, mais il peut être expliqué par plein de choses, la mécanique originale, où il y a des figurines, où c'est que ça joue, il y a des auteurs connus.
C'est beau.
C'est beau, enfin, franchement, ça fait envie, c'est plus de bonheur, mais quelle est la part de, dans ce succès-là, quelle est la part de Conan? On aurait pu avoir le même jeu avec un autre thème, il n'aurait pas forcément marché pareil, peut-être aussi. Quelle est du coup la part de Conan?
Non, non, elle est fondamentale, la part de Conan. Elle est fondamentale parce que... parce que c'est l'une des rares, je vais utiliser le terme licence, que peut-être Patrice aimerait pas, ou j'en sais rien, mais c'est l'une des rares licences, en fait, d'un personnage ultra connu, connu de tous les geeks et les joueurs actuels, qui n'était pas correctement exploité. Donc, en fait, Conan est connu du monde entier, c'est-à-dire qu'on peut toucher beaucoup de gens par ce personnage-là, et en plus avec une approche nouvelle, puisque on revient vraiment à la source. Si on regarde les licences un petit peu d'Heroic Fantasy, de Dark Fantasy ou autre, elles sont déjà toutes correctement exploitées. Game of Thrones, qui est évidemment très fort, a déjà des déclinaisons assez fidèles au matériel de base. Tolkien, c'est pareil. Il y a eu beaucoup de jeux, et certains très bons, correctement exploités. Qu'est-ce qui reste? Il reste Elric ou Conan, en gros. Hein, et Conan plus fort quand même qu'Elric. Et Conan n'a jamais eu un jeu de ce genre. Donc la part est très forte parce que justement c'est un peu une aubaine, c'est une licence forte, marquante, qui a marqué des générations de gens. Donc leur vision de l'heroic fantasy a été marquée peut-être par certains passages, par le film et les comics pour ce qui me concerne, et pour beaucoup de gens, je pense, qui le redécouvre aujourd'hui, mais qui n'avait pas été exploité. Je pense que si on... Justement, la question s'est posée. Si on avait fait un jeu avec, on va dire, la même équipe, le même, mais qu'on avait fait sur un univers inventé, une sorte de barbare non nommé, mais qui aurait évoqué Conan, on n'aurait absolument pas eu le même impact. Je pense que c'est au moins du simple au triple, facile. Voilà. Je suis persuadé que c'est parce que c'était Conan que c'est quelque chose de connu, qu'on a dit « Ah, attention, vous allez voir le Conan que vous n'avez jamais vu. En fait, vous allez pouvoir le jouer. Et vous allez avoir... vous allez être plongé dans cet univers et on revient aux sources. Vous allez le découvrir tel que vous l'avez jamais vu. » On a pu toucher les gens qui connaissaient Conan, les puristes, et évidemment, nous avons touché aussi les joueurs, les rôlistes, les amateurs de jeux de plateau, et tous ceux qui apprécient l'équipe qui a été réunie autour du jeu. Donc, le fait que ce soit Conan a été, pour moi, et j'en suis persuadé, fondamental.
D'autres questions, peut-être ?
Je suis assez fasciné par tous ces aléas littéraires dont vous parlez sur Howard, que j'aimerais bien. Tu aurais quelque chose à dire sur Wandering Star ? Parce que pour moi, ces bouquins ont été vraiment c'était un simple, un choc, une révélation. C'est vraiment des super beaux objets en boîtage et illustration. Il me semble que les deux premiers Conan sont sortis chez Wandering Star, le troisième on a dû l'attendre et est sorti ailleurs. Voilà. À titre personnel, j'aurais bien un petit peu plus de détails sur.
Alors, le livre Wandering Star, à la base, Wandering Star est une société de production donc, dans le domaine du cinéma, qui est agréée par un monsieur qui s'appelle Paul Béraud. Et la firme a été créée parce qu'il y avait un projet d'adapter Solomon Kane au cinéma. Et donc là, on est en 1997. Et donc, que font-ils ? Ils achètent les droits aux ayants droit de les droits de Solomon Kane aux ayants droit de l'époque. Et il y a.
Excuse-moi, c'est la CPI dont tu parlais ?
Non, là, Solomon Kane s'est séparé. Conan est. J'essaie de faire simple. Donc, ils achètent les droits de Solomon Kane, et là, ils prennent un monsieur en charge de tout ce qui est publicité, qui est monsieur Marcello Anciano. Marcello, c'est quelqu'un qui a un parcours assez incroyable et qui a une caractéristique assez étonnante, c'est qu'il est capable de penser transversalement sur énormément de sujets, et en particulier celui-là. Et donc il y avait un budget pub qui était assez important, donc communication pour qu'on lance un projet film sur Solomon Kane, qui était, je ne sais plus, 100 000 dollars ou 100 000 livres sterling, donc c'était quand même assez important. Et il décide d'utiliser cet argent pour convaincre un producteur associé, des acteurs, en tout cas des gens de Hollywood. Au lieu de faire un truc classique en promo, il dit voilà ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un... Il dit les gens d'Hollywood ne pensent pas en termes de texte, ils pensent en termes d'image, de visuel, d'impact. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bouquin dans lequel on va rééditer les textes tels qu'ils ont été écrits, mais surtout on va faire un très beau bouquin, un produit prestigieux, à la façon des ouvrages illustrés du début du XXe siècle, avec des illustrateurs comme CYS, etc. Je ne sais pas si vous connaissez. Et on va rajouter une centaine d'illustrations pour que les gens, avec des peintures, pour que les gens voient, donc les gens d'Hollywood, voient ce que ça peut être. Donc à la base, c'est un tirage de luxe. Il va être tiré à 1050 exemplaires. Et à la base, il n'est pas destiné à être vendu, ce bouquin. Il est destiné à circuler véritablement auprès du monde de Hollywood. Donc, Marcello lance le chantier. Et le livre va sortir en 98. Et sur les 1050 exemplaires, aujourd'hui, c'est un bouquin qui vaut très cher. Je crois qu'il se négocie à 600 ou 700 dollars sur eBay. Enfin, ça dépend des éditions. Et il se vend, je crois, 150 dollars auprès du grand public, ce qui à l'époque est juste une somme phénoménale. Et là, en fait, la moitié des exemplaires vont partir à Hollywood, ils vont être donnés à des gens du cinéma. Donc il y a pas mal de gens qui sont approchés à l'époque et dire voilà, on vous file un bouquin, regardez, ça peut-être vous intéresser à l'idée de faire un Solomon Kane. Donc en France. Et c'est quand je dis Hollywood, ça va même jusqu'en France, puisque Christophe Gans a eu un exemplaire ou des gens comme ça. Gans est un gros fan de Howard. Donc dès cette époque, il est déjà intéressé. Et le film ne va pas se faire, enfin il va se faire en fait en 2008 ou 2009. Et ça a créé la chose qu'on a pu voir. Et lorsque le succès du bouquin est là, bah Wandering Star dit bah, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la suite et essayer d'obtenir d'autres bouquins. Et donc du coup c'est comme ça qu'ils vont se lancer sur Brian McMahon l'année d'après, toujours avec la même idée. Pourquoi Brian McMahon ? Parce qu'à l'époque Wandering Star développe aussi un projet de film sur Brian McMahon qui par bonheur ne se fera pas. J'avais vu un script et c'était une catastrophe horrible. Et on tombe à ce moment-là au moment de la mort de Sprague de Camp et le fait que les droits de Conan se libèrent. Et du coup, ce qui était à la base un simple projet publicitaire devient la bibliothèque Howard qui se veut à l'époque intégrale. Ça va durer le temps de 7 volumes malheureusement, mais en tout cas les livres sont là. C'est donc Anseno est un travail avec Jim Keegan à l'époque, qui est un designer de livres extraordinaire. Marcelo est dans l'illustration, il connaît les grands dessinateurs, il embauche les bons dessinateurs pour ça. Il va chercher donc des spécialistes de Howard pour qu'il n'y ait aucun problème sur ces bouquins là et du coup on se retrouve avec une édition qui est exceptionnelle en ce sens qu'on a des objets, on a vraiment des beaux livres. Et là, ce que moi j'ai retenu de cette expérience-là, parce que je suis arrivé en cours de l'histoire de Wandering Star, quand je suis arrivé au moment du troisième volume, qui était un volume un peu spécial, c'était le volume illustré par Frank Frazetta, qui s'appelait The Ultimate Triumph, donc c'est les meilleures nouvelles de Howard sur la barbarie et les civilisations, illustré par Frank Frazetta. C'est le premier livre professionnel sur lequel j'ai travaillé dans ma carrière, donc il y avait Howard, Frazetta, et j'avais mon nom dessus, enfin dedans, parce que j'ai écrit un article. Je dis cool. Et lorsque les bouquins sont parus, lorsque l'édition Brajlon s'est annoncée en 2004, les premières négociations, j'ai dit voilà, parce qu'il faut faire quitter à Howard le temps d'une édition, le livre de poche, la littérature de gare qui était associée jusque-là à ce nom-là. Il faut faire une édition prestigieuse. Et c'est ce qu'on a suivi avec l'édition cartonnée, etc., etc., qui fait qu'aujourd'hui, on a, par l'édition, par l'objet, on a redonné des lettres de noblesse à Howard.
Ce qui est intéressant, vous remarquerez que souvent le support, le type de livre, renseigne parfois à tort d'ailleurs, ou donne certaines images de la qualité de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut se demander si le fait que la plupart de ces histoires qui ont été publiées dans des pulps autrefois, dans les années 20, 30, donc sur du papier de mauvaise qualité, avec un prix bas de gamme, ça vaut pas cher. On dit ça vaut pas cher, ça vaut pas cher, ça vaut pas cher. Ce qu'il y a dedans non plus ne vaut pas cher. Et je pense que les littératures dont nous pouvons parler ici ce week-end ont peut-être, enfin ce n'est pas peut-être, ont certainement souffert du fait d'avoir été publiées comme ça dans des revues de moches, quoi, de toute manière.
Mais c'est ce qu'a fait Joshi sur Lovecraft. Il a passé 20 ans à faire oublier à tout le monde que Lovecraft est un auteur de Weird Tales.
Weirdtales, tu peux nous dire juste un mot pour ceux qui ne savent pas.
Weirdtales, c'est un pulp légendaire aujourd'hui.
On sait pas ce que c'est.
Un pulp magazine, c'est une revue populaire américaine bon marché et imprimée sur un papier de très mauvaise qualité avec des couvertures très bariolées dans lesquelles on voit souvent des jeunes femmes plus ou moins dénudées. Weirdtales, c'est un pulp légendaire aujourd'hui parce qu'il a publié dans le monde de la fantasy et de la SF, parce qu'il a publié Howard, Lovecraft et Clark Ashton Smith, les trois mousquetaires de Weirdtales. C'est une revue qui était collectionnée à l'époque par les geeks de l'époque, mais c'est une revue pulp. Donc ce qu'a fait Joshi, le spécialiste mondial de Lovecraft, c'est qu'il a essayé de faire oublier à tout le monde que Lovecraft avait débuté dans les pulps, puisque par définition, les origines pulp indiquent littérature pulp. C'est ce qu'on a fait aussi pour Dashiell Hammett. Dashiell Hammett a été en France reconnu très tôt comme étant un auteur sérieux. Aux États-Unis, il a eu beaucoup de mal à s'extraire de la gang pulp dans laquelle il était publié. Pareil pour Tennessee Williams, ça a commencé dans Weirdtales quand même. C'est assez hallucinant, mais ça personne ne le sait, parce que qui dit origine pulp dit automatiquement littérature de gare bon marché et par définition pas bonne. C'est toujours de l'étiquetage marketing qui correspond pas forcément à grand chose.
Moi, je voudrais répondre aussi à nouveau, ça m'est venu après, par rapport à le succès, est-ce que c'est lié ou pas à Conan. Il y a un point que j'ai oublié de mentionner, c'est que Conan a une telle aura auprès du monde créatif d'aujourd'hui que ça permet rien que sur son nom de fédérer une équipe assez exceptionnelle. C'est-à-dire que on a pu avoir les illustrateurs qu'on avait parce que c'était Conan. Conan, je ne peux pas refuser, même s'ils sont sursollicités, qu'ils ont... Il y a une telle image pour eux qui ont été marqués par, en effet, par Frazetta et puis par tout ce que cela représente pour eux, que immédiatement ils disent oui. Donc que ce soit les sculpteurs, les illustrateurs, tout le monde en fait veut participer à un projet comme celui-là. Je pense que c'est également un point. Alors que si ça avait été comment tu l'appelles, le barbare. Raymond ou je sais pas, enfin Ronan le barbare, on n'aurait pas pu avoir cette équipe-là.
D'ailleurs, voilà. D'ailleurs, il n'y a pas eu de barbare justement.
Non, c'est Conan. C'est
tout le monde connaît le nom.
Tout le monde le connaît et tout le monde veut faire partie de, d'une aventure comme celle-là. Voilà. Donc on peut vraiment avoir les meilleurs. C'est un point important.
Le jeu, quand est-ce qu'on pourra le toucher ou la boîte ouvrir?
Alors, si nous tenons les délais, ça sera octobre. On vise toujours cette date-là, octobre-novembre. Octobre pour l'instant, on va dire. Hein. On est en plein dans... Ben, on continue de travailler dur, hein, c'est-à-dire il y a des scénarios qui sont testés, ne serait-ce que hier, on a encore testé des scénarios. Les sculptures, il en reste plus beaucoup, donc après il faut la production en Chine. C'est assez colossal parce que c'est un produit hors norme. Hein. Je pense que oui, il n'y a pas eu un produit avec autant de figurines différentes, un contenu aussi énorme que celui-ci, donc c'est quand même un gros défi, mais on vise toujours, pour l'instant, la fin de l'année.
Et là, on ne peut plus souscrire, c'est ça ?
Alors, si, on voit qu'on peut à nouveau souscrire, puisqu'il va y avoir l'ouverture de ce qu'on appelle le Pledge Manager. Le Pledge Manager, c'est, en fait, on recontacte les gens qui ont déjà souscrit en leur disant, voilà, maintenant, vous avez mis tant d'argent pour le jeu, comment vous répartissez cette somme? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Parce que au départ, les gens ont pu se dire, bah tiens, je prévois d'avoir ci, ça ou de telle extension, mais en définitive, ils peuvent, s'ils le souhaitent, répartir ça différemment. Donc, ce Pledge Manager va s'ouvrir. Il va permettre de confirmer donc son achat et la répartition de la somme, mais également, si on le veut, d'acheter de nouvelles choses. Et ce Pledge Manager va être ouvert à tout le monde. On ne va pas le limiter à ceux qui ont souscrit au jeu au départ. Ce qui fait qu'il y aura encore cette possibilité d'avoir le jeu tel qu'il a été proposé dans le Kickstarter. Et ça sera la dernière occasion pendant le Pledge Manager. Au-delà de ça, ce sera terminé, ce sera uniquement la version qui sortira en boutique. Donc ce Pledge Manager va s'ouvrir, on va dire, d'ici la fin du mois. Il va durer peut-être un mois, et pendant ce mois-là, ça sera une nouvelle ouverture pour ceux qui veulent encore profiter du jeu. Après, c'est terminé, le jeu qui sortira en boutique ne sera pas la version proposée sur Kickstarter, ce sera une version beaucoup plus légère, on va dire, avec moins de cartes, moins de figurines. Ce sera quand même un beau jeu, mais il sera pour ce prix-là, en fait, pour le prix que les gens ont dépensé pour le Kickstarter, on aura une version beaucoup plus light.
Voilà. Léo, je te remercie. Je suis désolé, on a pris du retard sur la première conférence, on va enchaîner sur la deuxième, mais la thématique n'est pas très loin de son Léo vient de nous parler là. On va accueillir là deux créateurs de jeux, l'un qui a créé des jeux, trois créateurs de jeux d'ailleurs, jeux inspirés de Murkoff ou jeux à vocation littéraire pouvant peut-être susciter un jour des romans. Et pour ces jeux, le financement participatif aussi a été quelque chose d'extrêmement intéressant et d'extrêmement important, qui vont nous présenter leur expérience. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être vous pouvez les retrouver. Une seule question très rapide.
En fait, là, voilà, là,
Patrice, il est en dédicace
chez ActuSF
avec Robert Howard qui nous attend, qui en a retrouvé.
Je suis au stand ActuSF pour le guide Howard qui vient de paraître là chez ActuSF.
Oui, Patrice a fait un guide consacré à Robert Howard, comme vous avez pu constater, il connaît assez bien le sujet. Ouais.
Bon. Je fais style.
Dans une île avec Elvis.
Comment? J'ai pas entendu.
Est-ce que Robert Howard est toujours dans une île avec Elvis Presley?
Le seul king, c'est Jack Kirby, c'est pas Elvis Presley.
Bon, bah merci beaucoup, Patrice. Le guide Howard en vente et en dédicace au premier étage. Vous retrouvez les livres, les jeux au premier étage, n'oubliez pas. Ainsi que